Autant se le dire est une émission de radio réalisée en collaboration par Radio Temps Rodez et Radio Larzac. Elle est le fruit d'un travail de longue haleine mené au sein de la maison d'arrêt de Rodez, avec la participation active d'un groupe de détenus. Ce projet a été initié et coordonné par Isabelle, Nathalie et Ivan, enseignantes de l'éducation nationale détachées à l'unité locale d'enseignement en détention, ainsi que par les intervenantes du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'émission donne la parole aux détenus, valorisant leurs idées, leurs opinions et leurs récits de vie autour de thématiques essentielles comme la liberté d'expression, l'influence des réseaux sociaux ou encore le rôle des journalistes. Un débat mené par Sophia de Radio Larzac et Alam de Radio Temps Rodez. Dans cet épisode, l'émission s'ouvre sur un débat consacré à la liberté des journalistes. Un sujet choisi par A2, le M et Martin, des pseudonymes utilisés pour préserver l'anonymat des participants. Écoutons-les.
Bonjour. Alors, au sujet de la question « Faut-il des limites à la liberté des journalistes ?»
ajoute Martin.
Il est essentiel que les journalistes aient une certaine liberté d'expression. Ils ne doivent pas être censurés afin de permettre aux auditeurs d'être informés et d'émettre un avis. C'est le principe de la démocratie. Mais ils sont soumis aussi aux limites de la liberté d'expression, interdiction de proférer des injures, de diffamer, etc.
Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression des journalistes en France est plutôt un avantage ou un inconvénient ?
Ça peut être un avantage comme un inconvénient.
Explique A2.
Parce que des fois, les journalistes, ils racontent un peu n'importe quoi. Quand les personnes passent au tribunal, ils en rajoutent, ils en mettent un peu plus. Après, il y a beaucoup aussi de mensonges dans le journalisme.
Vous avez eu une mauvaise expérience peut-être avec un journaliste en particulier qui peut-être a omis des propos pas corrects envers vous ?
Oui, personnellement, je ne citerai pas le nom du journaliste. Après, vu à la condamnation que j'ai prise par exemple, j'ai envie de dire que dans le journal, ils en ont rajouté. Bah, en fait, c'est pour montrer aux gens que comme quoi, soi-disant, il y a des gens un peu comme ça...
Est-ce que vous connaissez les principes de la déontologie d'un journaliste ?
Non.
La déontologie ?
Les principes moraux, on va dire. Les obligations.
Les droits et devoirs.
Les droits. Mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de mentir déjà.
Ajoute le M.
Ils doivent dire la vérité, que s'ils se trompent, ils doivent se corriger pour prévenir la population qui se sont trompés et dire la vraie information. Après, je n'en connais pas plus, je pense.
C'est déjà bien, mais du coup, ça veut dire que peut-être dans ce cas-là que vous avez cité, A2, il y a eu peut-être une mauvaise application de la déontologie de la part du journaliste. Peut-être qu'après, il s'est repris ou que sa rédaction lui a fait des reproches.
Moi, je dis que non, parce que ça a apparu dans les journaux et c'était quand même marqué ce qui est... Enfin, il y avait plus, quoi, de ce qu'il disait, en fait.
Il n'y a pas eu de correction après ?
Non, non.
Est-ce que vous savez qu'on a le droit de reprendre un journaliste, soit radio, télé ou presse écrite ? On a le droit de lui écrire et de lui dire « vous êtes trompé sur telle information ». Est-ce que vous le saviez, ça ?
Non, pas du tout.
Je pense que c'est une logique, de toute façon, pour se corriger. Parce qu'on a le droit à l'information, pas à la fausse information.
Non, je ne savais pas, mais... C'est vrai que la plupart des gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent reprendre un journaliste ou lui écrire. Ouais.
Explique Martin.
Le problème, c'est que le journalisme est trop pressé, donc il ne se renseigne pas assez sur les informations et peut débiter des mauvaises infos, quoi, des infos. Ouais.
Et quand vous dites trop pressé, est-ce que vous pensez en particulier aux médias d'information, par exemple comme les médias d'information non-stop, citons BFM par exemple, CNews, qui font de l'information 24 heures sur 24?
Mais justement, eux, ils ont souvent tendance à sortir une info en milieu de journée ou fin de journée, ils la modifient parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Ça peut perturber certaines personnes, je pense.
Et ça a déjà eu le temps de circuler dans la journée.
Moi, je suis d'accord avec Martin. Je pense que c'est pour faire les buzz. Bah, c'est comme les gros titres.
Qu'est-ce que vous avez écrit par rapport à la liberté de la presse ?
Que la liberté de la presse n'est pas absolue.
Ajoute Dylan.
Que les journalistes doivent respecter certaines règles, comme la présomption d'innocence, la vie privée, le secret défense. Après, sans presse indépendante, des scandales comme l'affaire de Watergate n'auraient jamais été révélés. C'est une affaire politique, je crois. Après, je pense que les journalistes jouent un rôle de contre-pouvoir face au gouvernement et aux entreprises. justement pour la transparence, leur information qu'ils nous apportent. Et si on les limite trop, on ouvre la voie à la censure et à la propagande.
Alors j'ai une autre question, est-ce que vous savez à qui appartiennent les médias ?
À l'ARCOM, non ?
Au gouvernement ?
Eh bien, moi j'aurais dit aussi au gouvernement, du moins il est contrôlé surtout par le gouvernement. Après, il est indépendant, je pense, le journaliste, mais avec des contraintes.
Alors, ils n'appartiennent pas à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation des médias. Donc, ils fixent un certain nombre de règles et qui peut faire des sanctions, qui peut émettre des sanctions vers des médias qui ne respectent pas le code de la déontologie. Ils n'appartiennent pas non plus au gouvernement, même si l'État finance, par exemple, les radios comme Radio France, les radios d'État, et via le ministère de la Culture, finance aussi les radios associatives. Mais le principe de l'indépendance de la presse et des médias est un principe inscrit dans la loi. Donc les médias, en fait, appartiennent souvent à des sociétés privées, qui peuvent être indépendantes quand elles sont financées, par exemple, par les lecteurs qui s'abonnent, ou par des gens qui investissent dans une société de radiodiffusion ou de diffusion de la presse.
Alors c'est pour ça que certains médias ont aussi on avait parlé la fois dernière de la couleur du média, de la ligne éditoriale aussi. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que ce terme ligne éditoriale ou couleur du média vous dit quelque chose ?
C'est parce qu'ils ont chacun des opinions différentes.
En fait, c'est le principe même d'avoir une couleur, c'est tout à fait semblable à avoir une couleur politique, de droite, de gauche, plutôt de centre, plutôt. Et on sait que certains médias, ils sont assez transparents et ils le disent clairement, hein, qu'ils sont parfois de gauche, parfois de droite, parfois centre. Alors vous êtes plutôt d'avis que la personne ou que quelqu'un en France doit se renseigner sur tous les médias, c'est-à-dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, etc., par tous les moyens, radio, télé, presse écrite, etc. Ou alors est-ce que, en tant qu'individu appartenant à une certaine idéologie politique, est-ce qu'on doit se limiter à se renseigner uniquement auprès de médias qui adhèrent à notre opinion politique ?
Mais moi, je pense que on peut rester sur un média qu'on choisit, mais il faut pas oublier d'avoir un œil un peu différent et un peu partout, quoi.
Explique Martin.
Être ouvert de l'esprit, ouais, c'est tout à fait ça.
Je suis du même avis que Martin. Se renseigner surtout, par exemple, sur tous les médias, regarder un peu partout. Non, la télé, je pense sur la télé et sur Internet aussi.
Personnellement, j'ai pas d'idéologie politique, donc je me renseigne sur tous les médias et je pense que tout le monde devrait faire pareil, se renseigner de tous les côtés parce que d'un côté, on va dire une chose, de l'autre côté, on va dire une autre chose, qui peuvent se compléter, mais pas finir dans le même journal.
Ajoute le M.
Moi, je suis d'accord, il faut se renseigner partout. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a le téléphone. Vraiment, si on veut vraiment se renseigner, on a tous les moyens de le faire.
Le M, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Un média va dire quelque chose et l'autre va dire autre chose. Et c'est pour ça que c'est hyper important de s'orienter vers plusieurs médias, de ce qu'on appelle la vérification de sources. Le fait de vérifier une source, ça fait partie de ça, c'est-à-dire voir et croiser les sources. On va aller voir ce que dit tel média et voir si cette information-là, en fait, on la retrouve dans d'autres médias. C'est une astuce de vérification des sources.
On peut comprendre la ligne éditoriale d'un média en regardant comment est présentée une nouvelle, une actualité sur deux médias différents qui sont un peu à l'opposé, par exemple, du spectre politique. On va voir qu'il y a peut-être les mêmes informations dedans, mais la façon dont elles sont présentées fait peut-être pencher le lecteur ou l'auditeur vers une opinion plutôt qu'une autre. Donc c'est très intéressant de faire cet exercice-là. Comment vous vous informez-vous en ce moment ? Quelles sont les sources les plus faciles d'information ? Est-ce que vous avez accès à la télé, à la radio ?
On a accès à la télé. Ouais, sur CNews, BFM TV, France Info.
C'était A2.
Est-ce que vous lisez les journaux, la presse écrite aussi ?
Non, moi je lis pas les journaux, je regarde en temps la télé. Je regarde souvent le journal télévisé, donc le JT de TF1. Oui, il y a la radio aussi, donc moi j'écoute la radio.
Ajoute le M.
Bah ici, là, on peut que se renseigner avec la radio et la télévision.
Ajoute Dylan.
Pour moi, c'est vrai que c'est souvent le journal télévisé. Bon, en prison, on n'a pas trop le choix, mais sinon, à l'extérieur, oui, ça m'arrive de lire le journal ou après, bon, comme tout le monde, sur les réseaux, sur Internet. Mais après, c'est vrai que le journal télévisé arrive en premier, je pense, pour tout le monde. C'est la première source d'information, je pense.
Ça doit s'exercer avec responsabilité, c'est tout.
Maintenant, nous nous quittons quelques instants pour une pause musicale avec Kerry James, Lettre à la République. Nous avons pensé que cette chanson correspondait parfaitement au thème du débat car la liberté d'expression est la condition de la démocratie qui est un pilier de la République.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués. Entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie et pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? T'es loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
C'était Kerry James, Lettre à la République.
Après ce premier échange sur la liberté des journalistes, Fantasma, Kiki de Bondy et Dylan, toujours des pseudonymes utilisés dans le cadre de cette émission, enchaînent avec un débat tout aussi intéressant, l'impact des réseaux sociaux sur notre quotidien. C'est Fantasma qui ouvre la discussion en nous livrant son point de vue. Écoutons.
Mon avis sur les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux sont des espaces d'échange incontournables. Mais sur les réseaux sociaux, on peut y trouver de la violence, des insultes, du harcèlement et des campagnes de haine. Et alors oui, ils peuvent être une arène de violence. De plus, les algorithmes mettent en avant certaines polémiques, mais on peut y trouver aussi des mobilisations et des actions positives, par exemple le mouvement MeToo. Les réseaux ne sont qu'un outil, leur usage dépend des utilisateurs et des modérateurs. Je serais d'avis de sensibiliser davantage les élèves à l'éducation aux médias.
Kiki de Bondy, quel est votre avis?
Moi, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas compatibles avec un certain public, notamment les mineurs. La sécurité n'est pas suffisante car les jeunes arrivent à la contourner. Et c'est très difficile d'intervenir car les utilisateurs se sentent protégés derrière leur écran et les injures et les propos racistes se font plus fréquents.
Est-ce que vous connaissez des moyens pour reconnaître une fausse information sur les réseaux ? Qu'est-ce que sont les éléments qui peuvent vous alerter ?
La source déjà de l'information.
Kiki de Bondy ajoute.
Il y a les comptes, vérifier si le compte est vérifié, voir s'il y a un certain nombre d'abonnés. Assez important. Après, il y a notamment des applications pour essayer de vérifier les deepfakes.
Est-ce que vous êtes déjà confronté à des fake news sur les réseaux et vous avez dit « Ah non, mais ça, c'est pas vrai ».
Oui. Après, c'est plus par rapport au foot, par exemple. Des rumeurs sur des transferts, tout comme ça. Enfin, c'est des fake news pour faire parler.
Explique Fantasma.
Pourquoi on fait circuler de la fausse information, selon vous ?
Pour faire parler les médias.
Pour faire vendre.
Selon vous, est-ce que les fausses informations sont plus relayées par les jeunes, parce qu'on dit que les jeunes croient beaucoup, beaucoup de fausses informations, ou par les personnes âgées ?
Je pense que c'est varié. Je pense qu'il y a un certain pourcentage dans les deux. Parce que du coup, les personnes âgées tombent très vite dans le panneau, et les jeunes, pareil, ne se renseignent pas assez et tombent aussi dans le panneau.
Je pense un peu la même chose, que les personnes un peu âgées tombent plus facilement dans le panneau.
Ajoute Kiki de Bondy.
Que les jeunes, peut-être, contrôlent moins ce... Donc ils se font avoir aussi, mais je pense que les personnes âgées sont quand même plus fortement touchées.
Moi personnellement, je pense que c'est l'inverse. Je pense que les jeunes sont plus impactés par les fausses informations, parce que surtout c'est quelque chose qui touche beaucoup le monde d'Internet.
Ajoute le M.
Donc la plupart des personnes âgées ne passent pas leur temps sur Internet.
Ouais,
il y en a qui ne connaissent pas.
Ils ont accès à Facebook.
C'est vrai qu'il y en a qui ont accès à Facebook, mais... Je reste sur ma position que les personnes âgées ne... Bah pour moi, une personne âgée, déjà, c'est une personne qui a un très très grand âge. Donc, celles que je connais n'ont pas de téléphone tactile. Ils ont le fixe à la maison, mais ils ont le téléphone à clapet. Donc, ils ne peuvent pas trop aller sur Internet. Ils ne savent pas se servir d'un ordinateur. Donc, moi, je pense que ça impacte beaucoup les jeunes, surtout les jeunes mineurs.
J'ai une autre question. Vous avez parlé de rendre les règles d'accès au réseau plus sévères pour les jeunes. Par exemple, vous avez des exemples sur des mesures qu'on pourrait prendre par rapport à ça ?
Kiki de Bondy ajoute.
Moi, je pense qu'il faudrait des vérifications sur les applications ou sites moins de 18 ans avec une vérification à pièce d'identité parce que les jeunes arrivent trop souvent à les contourner.
Ouais, je pense qu'on peut mettre des barrières par rapport au réseau sur l'accessibilité. À l'heure actuelle, il y a déjà assez de barrières, je trouve, et les jeunes arrivent assez souvent à les contourner, ces barrières, et avoir un accès facile au réseau ou autre.
Fantasma propose son point de vue.
En prenant l'identité de leurs parents ou de personnes majeures qu'ils connaissent. Je pense qu'il y a une manière de mettre une barrière, mais laquelle, je ne saurais vous dire, parce que toutes les barrières qui ont été essayées jusqu'à maintenant ont été contournées et n'ont pas fonctionné, donc.
Bah moi je suis d'accord avec ça, que je pense qu'il faut renforcer les barrières de sécurité, mais comme le dit Fantasma, c'est que toutes les barrières ont été contournées à l'heure d'aujourd'hui, donc je pense que avec la technologie et les générations qui avancent, c'est pas quelque chose qui va repousser les jeunes.
Vous pensez que les restrictions qui sont déjà en place, du genre la limite d'âge, par exemple sur TikTok, je sais que sur TikTok ça doit être entre 13 ou 15 ans, je sais plus, sur Snapchat, sur Instagram, etc., est-ce que ça suffit ou ça suffit pas ? Alors, les restrictions liées à l'âge, mais aussi cette vérification d'identité, est-ce qu'elle suffit ou pas ?
Je pense qu'elle ne suffit pas. Et je pense qu'on s'y est pris un petit peu trop tard, dans le sens où on a attendu que certains faits se réalisent pour agir. On n'a pas agi en temps et en heure pour que, justement, certains faits ne se réalisent pas. Et du coup, je pense que à l'heure actuelle, les jeunes ont pris une habitude. Et du coup, cette habitude-là, ils vont la garder au fur et à mesure du temps. Et c'est pas des barrières qui vont les empêcher d'aller sur les réseaux. Alors que si les barrières, on les aurait mis bien avant, ça aurait pu les sensibiliser, justement.
Donc, selon vous, ils vont toujours trouver une manière de contourner ces règles.
C'est ça.
Moi, je pense la même chose, qu'ils vont toujours avoir une manière de contourner les règles.
Ajoute. Le M.
Après, je pense aussi que c'est dû à l'autorité parentale. Je pense que l'éducation a quelque chose à voir dedans aussi.
Vous avez parlé d'éducation aux médias aussi. Peut-être montrer aussi aux jeunes qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Et oui, peut-être pas que aux jeunes d'ailleurs. On avait parlé, je ne sais pas si c'était une vraie proposition, mais d'interdire les téléphones à l'école, par exemple, ou de faire des journées sans écran aussi. Vous en pensez quoi ?
Je suis d'accord, mais moi je pense que déjà c'est interdit le téléphone à l'école. Parce que moi je me souviens qu'au collège, on n'avait pas le droit au téléphone.
Il y a une autre solution, mais je pense pas que ce soit la bonne solution, parce que on est en France, pays du coup de la liberté. Et si on nous enlève ça, c'est en quelque sorte nous priver de notre liberté aussi.
Explique Fantasma.
Enfin, moi j'ai un exemple, c'est la Turquie. Où par exemple en Turquie, l'application TikTok est bannie. L'application de jeu Roblox, elle est bannie. Ça pourrait être un moyen, mais bon, je pense que ce serait l'atteinte à la liberté...
De s'informer ou pas.
C'est ça, ouais.
La meilleure solution, je pense, pour arrêter tout ça et de créer une loi qui empêche les mineurs d'utiliser les téléphones avant leur majorité.
Ajoute Kiki de Bondy.
Je pense que c'est la meilleure solution, mais d'après moi, ça n'arrivera pas.
Sachant que les jeunes aujourd'hui utilisent bien avant 18 ans. À 12, 13 ans, on a déjà...
Même à 5 ans, ils l'utilisent.
Oui.
Et selon vous, est-ce que ça serait plutôt à l'État de réguler l'accès aux réseaux sociaux ? Ça serait, par exemple, aux enseignants ? Ou c'est aux parents ?
Aux parents, plutôt. Garder leur portable. Je pense que c'est plutôt aux parents de récupérer les téléphones plutôt qu'à l'école de leur garder.
Moi, je pense que c'est aux parents aussi et à l'école aussi. L'éducation nationale fait beaucoup aussi dans l'éducation des enfants à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de ne pas leur laisser leur téléphone à l'école. Même si, en cours de récréation, ils sont déjà libres. N'a pas de très grand danger vu qu'ils ont une surveillance permanente, donc ils n'ont pas besoin de prévenir quelqu'un dans l'immédiat.
Explique le M.
Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est comme sur d'autres questions liées à l'éducation, parfois les responsabilités sont partagées entre la famille, l'école et l'État.
Après ces deux débats riches en réflexions sur la liberté des journalistes et sur l'impact des réseaux sociaux, place au dernier échange de cette émission. Un débat consacré à la laïcité en France et plus précisément à la question de la liberté d'expression religieuse. C'est le M qui prend la parole pour nous partager ses arguments et sa vision du sujet. On l'écoute.
La question, c'est la laïcité en France protège-t-elle ou limite-t-elle la liberté d'expression religieuse ? Donc mes arguments, mes opinions sur ça sont très simples. Je pense que la laïcité permet à chacun d'exercer sa religion et protège tous les croyants. Elle empêche les personnes d'exercer leur culte en public et ainsi elle évite les conflits. Mais la laïcité restreint beaucoup et par exemple certains croyants voudraient être libres d'afficher leurs signes religieux, quel que soit le lieu. Il existe des quartiers en France avec une grande mixité de nationalités et donc de religion où chacun se respecte et respecte la croyance de l'autre sans conflit. Donc je pense que rendre visibles les différences religieuses permettrait d'être sur un pied d'égalité.
C'était Autant se le dire, une émission diffusée sur Radio Larzac et sur Radio Temps Rodez, préparée et enregistrée par un groupe de détenus de la maison d'arrêt de Rodez. Merci de nous avoir écoutés. Un grand merci à Alam et Sophia de Radio Temps Rodez et Radio Larzac pour l'animation et les ateliers radio, à Vincent Mangin du SPIP et à Isabelle, Nathalie et Ivan, enseignantes de l'éducation nationale détachées à l'unité locale d'enseignement en détention, pour avoir rendu possible ce projet. Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur radiolarzac.org et sur radiotemps.com.